Chapitre 9. Le mauvais en Avignon. Pour bien vous dire le vrai, mon neveu, je préfère ces églises de jadis, comme celle du Dorat où nous venons de passer, aux églises qu'on nous fait depuis 150 ou 200 ans, qui sont des prouesses de pierre, mais où l'ombre est si dense, les ornements si profus et souvent si effrayants, que l'on s'y sent le cœur serré d'angoisse, autant que si l'on était perdu dans la nuit au milieu de la forêt. Ce n'est pas bien vu, je le sais, que d'avoir mon goût, mais c'est le mien et je m'y tiens. Peut-être me vient-il de ce que j'ai grandi dans notre vieux château de Périgueux, planté sur un monument de l'antique Rome, tout près de notre Saint-Front, tout près de notre Saint-Étienne, et que j'aime à retrouver les formes qui me les rappellent, ces beaux piliers simples et réguliers, et ces hauts cintres bien arrondis sous lesquels la lumière se répand aisément. Les anciens moines s'entendaient à bâtir de ces sanctuaires dont la pierre semble doucement dorée, tant le soleil y pénètre à foison, et où les champs, sous les hautes voûtes qui figurent le toit céleste, s'enflent et s'envolent magnifiquement comme voix d'ange au paradis. Par grâce divine, les Anglais, s'ils ont pillé le Dorat, n'ont point assez détruit ce chef-d'œuvre entre les chefs-d'œuvre pour qu'on ait à le reconstruire. Sinon, je gage que nos architectes du Nord se seraient plu à monter quelques lourds vaisseaux de leur façon, appuyés sur des pattes de pierre comme un animal fantastique, et où, lorsqu'on y pénètre, on croirait tout juste que la maison de Dieu est l'antichambre de l'enfer. Et ils auraient remplacé l'ange de cuivre doré au sommet de la flèche qui a donné son nom à la paroisse, eh oui, l'eau dorate, par un diable fourchu et bien grimaçant. L'enfer. Mon bienfaiteur, Jean XXII, mon premier pape, n'y croyait pas, ou plutôt, il professait qu'il était vide. C'était aller un peu loin. Si les gens n'avaient plus à redouter l'enfer, comment pourrait-on en tirer aumône et pénitence pour rachat de leurs péchés? Sans l'enfer, l'Église pourrait fermer boutique. C'était lubie de grand vieillard. Il nous fallut obtenir qu'il se rétractât sur son lit de mort. J'étais là. Oh, mais le temps fraîchit vraiment. On sent bien que dans 2 jours, nous entrons en décembre. Un froid mouillé, le pire. Brunet ! Aymar Brunet, vois donc, mon ami, s'il n'y a point dans le char aux vivres un pot de braise à placer dans ma litière. Les fourrures n'y suffisent plus, et si nous continuons de la sorte, c'est un cardinal tout grelottant qui va sortir à Saint-Benoît-du-Sault. Là aussi, m'a-t-on dit, l'Anglais a fait ravage. Et s'il n'y a point de braise à suffisance dans le chariot du queue, car il m'en faut plus que pour tenir tiède un ragoût, qu'on aille enquérir au premier hameau que nous traverserons. Non, je n'ai point besoin de m'être vigié, laissez-le cheminer son train. Dès qu'on appelle mon médecin à ma litière, toute l'escorte imagine que je suis à l'agonie. Je me porte à merveille, j'ai besoin de braise, voilà tout. Alors, vous voulez savoir, Archambault, ce qui s'en suivit du traité de Mantes dont je vous ai fait récit hier? Vous êtes bon écouteur, mon neveu, et c'est plaisir que de vous instruire de ce que l'on sait. Je vous soupçonne même de prendre quelques notes d'écrit quand nous parvenons à l'étape, n'est-ce pas vrai? Bon, j'ai bien jugé. Ce sont les seigneurs du Nord qui se donnent de la grandeur à être plus ignorants que des ânes, comme si lire et écrire était emploi de petits clercs ou de pauvres. Il leur faut un serviteur pour connaître le moindre billet qu'on leur adresse. Nous, dans le midi du royaume, qui avons toujours été frottés de romanité, nous ne méprisons pas l'instruction, ce qui nous donne l'avantage dans bien des affaires. Ainsi vous notez, c'est bonne chose, car pour ma part, je ne pourrais guère laisser témoignage de ce que j'ai vu et de ce que j'ai fait. Toutes mes lettres et écritures sont ou seront versées au registre de la papauté pour n'en sortir jamais, comme il est de règle. Mais vous serez là, Archambault, qui pourrait, au moins sur les affaires de France, dire ce que vous savez, et rendre justice à ma mémoire si certains, comme je ne doute pas que le ferait le Capocci, Dieu veuille seulement me garder sur terre un jour de plus que lui, entreprenait d'y attenter. Donc, très vite, après le traité de Mantes, où il s'était montré si inexplicablement généreux à l'endroit de son gendre, le roi Jean accusa ses négociateurs, Robert le Coq, Robert de Loris et même l'oncle de sa femme, le cardinal de Boulogne, de s'être laissé acheter par Charles de Navarre. Soit dit entre nous, je crois qu'il n'était pas hors de la vérité. Robert Lecoq est un jeune évêque brûlé d'ambition, qui excelle à l'intrigue, qui s'en délecte, et qui a très vite aperçu l'intérêt qu'il pouvait avoir à se rapprocher du Navarrais, au parti duquel d'ailleurs, depuis sa brouille avec le roi, il s'est ouvertement rallié. Robert de Loris, le chambellan, est certainement dévoué à son maître, mais il est d'une famille de banque où l'on ne résiste jamais à rafler quelques poignées d'or au passage. Je l'ai connu, ce Loris, quand il est venu en Avignon, voici 10 ans à peu près, négocier l'emprunt de 300 000 florins que le roi Philippe V fit au pape d'alors. Je me suis, pour ma part, contenté honnêtement de 1 000 florins pour l'avoir abouché avec les banquiers de Clément VI, les Raimondi d'Avignon et les Mattei de Florence. Mais lui, il s'est plus largement servi. Quant à Boulogne, tout parent qu'il est au roi, j'entends bien qu'il est constant que nous soyons, nous, cardinaux, justement récompensés de nos interventions au profit des princes. Nous ne pourrions autrement suffire à nos charges. Je n'ai jamais fait secret, et même, j'en tire honneur, d'avoir reçu 22 000 florins de ma sœur de Durazzo pour le soin que j'ai pris il y a 20 ans, déjà 20 ans, de ces affaires ducales qui étaient bien compromises. Et l'an dernier, pour la dispense nécessaire au mariage de Louis de Sicile avec Constance d'Avignon, j'ai été remercié par 5 000 florins. Mais jamais je n'ai rien accepté que de ceux qui remettaient leur cause à mon talent ou à mon influence. La déshonnêteté commence quand on se fait payer par l'adversaire. Et je pense bien que Boulogne n'a pas résisté à cette tentation. Depuis lors, l'amitié est fort refroidie entre lui et Jean II. Loris, après un peu d'éloignement, est rentré en grâce, comme il en va toujours avec les Loris. Il s'est jeté aux pieds du roi le dernier vendredi saint, a juré de sa parfaite loyauté et rejeté toute duplicité ou complaisance sur le dos de Lecoq, lequel est demeuré dans la brouille et banni de la cour. C'est chose avantageuse que de désavouer les négociateurs. On peut en prendre argument pour ne pas exécuter le traité. Ce que le roi ne se priva point de faire. Quand on lui représentait qu'il eût pu mieux contrôler ses députés, et céder moins qu'il ne l'avait fait, il répondait irrité « Traiter, débattre, argumenter ne sont point affaires de chevalier ». Il a toujours affecté de tenir en mépris la négociation et la diplomatique, ce qui lui permet de renier ses obligations. En fait, il n'avait tant promis que parce qu'il escomptait bien ne rien tenir. Mais, dans le même temps, il environnait son gendre de 1000 courtoisies feintes, le voulant sans cesse auprès de lui à la cour, et non seulement lui, mais son cadet, Philippe, et même le puiné, Louis, qu'il insistait fort à faire revenir de Navarre. Il se disait le protecteur des 3 frères et engageait le dauphin à leur prodiguer amitié. Le mauvais ne se soumettait pas sans arrogance à tant d'excessives prévenances, tant d'incroyables sollicitudes, allant jusqu'à dire au roi, en pleine table, « Avouez que je vous ai rendu bon service en vous débarrassant de Charles d'Espagne, qui voulait tout régenter au royaume. Vous ne le dites point, mais je vous ai soulagé. » Vous imaginez combien le roi Jean goûtait de telles gentillesses. Et puis, un jour de l'été qu'il y avait fait au palais et que Charles de Navarre s'y rendait en compagnie de ses frères, il vit venir à lui, se hâtant, le cardinal de Boulogne, qui lui dit « Rebroussez chemin et rentrez en votre hôtel si vous tenez à la vie. Le roi a résolu de vous faire auxir tout à l'heure, les 3 que vous êtes, pendant la fête. » La chose n'était point imaginaire, ni déduite de vague rumeur. Le roi Jean en avait décidé ainsi, le matin même, dans son conseil étroit auquel Boulogne assistait. « J'ai attendu pour ce faire que les 3 frères fussent assemblés, car je veux qu'on les auxise tous les 3, afin qu'il ne reste plus rejeton mâle de cette mauvaise race. » Pour ma part, je ne blâme point Boulogne d'avoir averti les Navarres, même si cela devait accréditer qu'il leur était vendu, car un prêtre de la Sainte Église, et qui plus est un membre de la curie pontificale, un frère du pape dans le Seigneur, ne peut entendre de sang-froid qu'on va perpétrer un triple meurtre et accepter qu'il s'accomplisse sans rien avoir tenté. C'était s'y laisser associer, en quelque sorte, par le silence. Qu'avait donc le roi Jean besoin de parler devant Boulogne ? Il n'avait qu'à imposter ses sergents. Mais non, il s'est cru habile. Ce roi-là, quand il veut faire le finaud, il n'a jamais su voir 3 coups d'échec en avant. Sans doute pensait-il que lorsque le pape lui ferait remontrance d'avoir ensanglanté son palais, il aurait beau jeu de répondre « Mais votre cardinal était là, qui ne m'a point désapprouvé. » Boulogne n'est pas perdreau de la dernière couvée qu'on amène à donner dans de si gros panneaux. Charles de Navarre, ainsi averti, se retira donc très hâtivement vers son hôtel où il fit apprêter son escorte. Le roi Jean, ne voyant point paraître les trois frères à sa fête, les envoya quérir fort impérativement. Mais son messager ne reçut pour réponse que le paix des chevaux, car juste à ce moment, les Navarres tournaient bride vers la Normandie. Le roi Jean entra alors dans un vif courroux, où il cacha son dépit en faisant l'offenser. « Voyez ce mauvais fils, ce félon qui se refuse à l'amitié de son roi et qui de lui-même s'exile de ma cour. Il doit avoir à celer de bien méchants desseins. » Et de cela, il prit prétexte pour proclamer qu'il suspendait l'effet du traité de Mantes, qu'il n'avait jamais commencé d'exécuter. Ce qu'apprenant, Charles renvoya son frère Louis en Navarre et dépêcha son frère Philippe en Cotentin afin d'y lever des troupes, lui-même ne restant guère à Évreux. Car dans le même temps, notre Saint-Père, le pape Innocent, avait décidé d'une conférence en Avignon, la troisième, la quatrième, ou plutôt la même toujours recommencée, entre les envoyés des rois de France et d'Angleterre pour négocier non plus d'une trêve reconduite, mais d'une paix vraie et définitive. Innocent voulait cette fois, disait-il, mener à succès l'œuvre de son prédécesseur, et il se flattait de réussir là où Clément VI avait échoué. La présomption Archambault se loge même au cœur des pontifes. Le cardinal de Boulogne avait présidé les négociations antérieures. Innocent le reconduisit en cet office. Boulogne avait toujours été suspect, comme je l'étais également, au roi Édouard d'Angleterre, qu'il estimait trop proche des intérêts de la France. Or, depuis le traité de Mantes et la fuite de Charles le Mauvais, il était suspect aussi au roi Jean. À cause de cela, peut-être, Boulogne mena la rencontre mieux qu'on l'attendait. Il n'avait personne à ménager. Il s'entendit assez bien avec les évêques de Londres et de Norwich, et surtout avec le duc de Lancastre, qui est un bon homme de guerre et un seigneur véritable. Et moi-même, en retrait, je mis la main à l'œuvre. Le petit Navarrais dut avoir vent. Ah ! Voici la braise. Brunet, glisse le pot sous mes robes. Il est bien clos, au moins, que je ne m'aille pas brûler. « Oui, cela va bien. » Donc, Charles de Navarre dut avoir vent que l'on progressait vers la paix, ce qui certes n'eut pas arrangé ses affaires, car un beau jour de novembre, il y a tout juste 2 ans, le voilà qui surgit en Avignon où nul ne l'attendait. C'est en cette occasion que je le vis pour la première fois. 24 ans, mais n'en paraissant pas plus de 18 à cause de sa petite taille, car il est bref, vraiment très bref, le plus petit des rois d'Europe. Mais si bien pris dans sa personne, si droit, si leste, si vif, que l'on ne songe pas à s'aviser de ce défaut. Avec cela, un charmant visage que ne départ point un nez un peu fort, de beaux yeux de renard au coin déjà plissé en étoile par la malice. Son dehors est si affable, ses façons si polies et légères à la fois, sa parole si aisée, coulante et imprévue, il est si prompt aux compliments, il passe si prestement de la gravité à la badinerie et de l'amusaille au grand sérieux, enfin, il paraît si disposé à montrer de l'amitié aux gens, que l'on comprend que les femmes lui résistent si peu, et que les hommes se laissent si bien embobeliner par lui. Non, vraiment, je n'ai jamais ouï plus vaillant parleur que ce petit roi-là. On oublie à l'entendre la mauvaiseté qui se cache sous tant de bonne grâce et qu'il est déjà bien endurci dans le stratagème, le mensonge et le crime. Il a un primesau qui le fait pardonner de ses noirceurs secrètes. Son affaire, quand il parut en Avignon, n'était pas des meilleures. Il était en insoumission au regard du roi de France qui s'employait à saisir ses châteaux et il avait fort blessé le roi d'Angleterre en signant le traité de Mantes sans même l'en avertir. « Voilà un homme qui m'appelle à son aide et me propose bonne entrée en Normandie. Je fais mouvoir pour lui mes troupes de Bretagne, j'en apprête d'autres à débarquer, et quand il s'est rendu assez fort par mon appui pour intimider son adversaire, il traite avec lui sans m'en prévenir. À présent, qu'il s'adresse à qui bon lui plaira, qu'il s'adresse au pape. » Eh bien, c'était justement au pape que Charles de Navarre venait s'adresser. Et après une semaine, il avait retourné tout le monde en sa faveur. En présence du Saint-Père et devant plusieurs cardinaux dont j'étais, il jure qu'il ne veut rien tant qu'être réconcilié avec le roi de France, y mettant tout le cœur qu'il faut pour que chacun le croie. Auprès des délégués de Jean II, le chancelier Pierre de la Forêt et le duc de Bourbon, il va même plus loin, leur laissant entendre que, pour prix de la bonne amitié qu'il veut restaurer, il pourrait aller lever des troupes en Navarre afin d'attaquer les Anglais en Bretagne ou sur leurs propres côtes. Mais dans les jours suivants, ayant fait mine de sortir de la ville avec son escorte, il y revient de nuit, plusieurs fois, et à la dérobée, pour conférer avec le duc de Lancastre et les émissaires anglais. Il abritait ses secrètes rencontres tantôt chez Pierre Bertrand, le cardinal d'Arras, tantôt chez Guy de Boulogne lui-même. J'en ai d'ailleurs fait reproche plus tard à Boulogne, qui tirait un peu trop sa paille aux deux mangeoires. « Je voulais savoir ce qu'il manigançait, » m'a-t-il répondu. « En prêtant ma maison, je pouvais les faire écouter par mes espies. » Ces espies devaient être fort sourds, car il n'a rien su du tout, ou bien il a faim de ne rien savoir. S'il n'était pas dans la connivence, alors c'est que le roi de Navarre lui a tiré le mouchoir de dessous le nez. Moi, j'ai su. Et vous plaît-il de connaître, mon neveu, comment Navarre s'y prit pour se gagner Lancastre ? Eh bien, il lui proposa tout fièrement de reconnaître le roi Édouard d'Angleterre pour roi de France. Rien moins que cela. Ils allèrent même si avant en besogne qu'ils projetèrent un traité de bonne alliance. Premier point. Navarre, donc, eut reconnu en Édouard le roi de France. Second point, il convenait de conduire ensemble la guerre contre le roi Jean. Troisième point, Édouard reconnaissait à Charles de Navarre le duché de Normandie, la Champagne, la Brie, Chartres et aussi la lieutenance du Languedoc, en plus bien sûr de son royaume de Navarre et du comté d'Évreux. Autant dire qu'il se partageait la France. Je vous passe le reste. Comment ai-je eu connaissance de ce projet ? Je puis vous dire qu'il fut noté de la propre main de l'évêque de Londres qui accompagnait Messire de Lancastre, mais ne me demandez point qui m'en a instruit un peu plus tard. Souvenez-vous que je suis chanoine de la cathédrale d'York et que, si mal en cours que je sois outre-Manche, j'y ai conservé quelques intelligences. Point n'est besoin de vous assurer que si l'on avait eu d'abord quelques chances de progresser vers une paix entre la France et l'Angleterre, elles furent toutes minées par le passage du sémillant petit roi. Comment les ambassadeurs auraient-ils voulu plus avant s'accorder quand chacune des deux parties se croyait encouragée à la guerre par les promesses de Monsieur de Navarre ? À Bourbon, il disait « Je parle à Lancastre, mais je lui mens pour vous servir ». Puis il venait chuchoter à Lancastre « Certes, j'ai vu Bourbon pour le tromper, je suis votre homme ». Et l'admirable, c'est que les deux le croyaient. Si bien que lorsque vraiment il s'éloigna d'Avignon pour gagner les Pyrénées, des deux côtés, on était convaincu, tout en prenant bien soin de n'en rien dire, de voir partir un ami. La conférence entra dans l'aigreur, on ne se concédait plus rien, et la ville entra dans la torpeur. Pendant 3 semaines, on n'avait rien fait que de s'occuper de Charles le Mauvais. Le pape lui-même surpris, en redevenant morose et geignard. Le méchant charmeur un moment l'avait distrait. Ah, me voilà réchauffé. À vous, mon neveu. Tirez le pot de braise de vers vous et vous dégourdissez un peu.